Et on en parle avec nos invités. Jean-Michel Ry, merci d'avoir accepté notre invitation. Mmh. Auteur et réalisateur, ex-directeur du théâtre du Rond-Point, bienvenue à vous sur ce plateau. Perico Legas, vous êtes notre guest star aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment dans la bande, vous êtes notre invité.
Non, c'est pour le pinard.
Ben oui, chroniqueur gastronomique, vous avez créé le comité de défense du Beaujolais avec Bernard Pivot, parce qu'on disait que c'était un grand amateur aussi de bonne chère et de vin. Juste avant, on va aller retrouver Éric-Emmanuel Schmitt, auteur et membre de l'Académie Goncourt. On le disait, Bernard Pivot, lui, il a présidé l'Académie Goncourt. Qu'est-ce que vous appréciez, vous, chez Bernard Pivot ?
Eh bien, en fait, c'était un homme de devoir, mais il le cachait sous le plaisir. C'est-à-dire que chaque fois qu'il ouvrait un livre, il le flairait comme un verre de vin et il était prêt à partir dans l'aventure du livre. Donc, en fait, il se consacrait... Il avait une assez mauvaise idée de lui-même, mais il pensait qu'il pouvait faire des choses utiles. Il a accompli vraiment son devoir de courroie, de transmetteur de culture avec joie, avec plaisir et d'une façon savoureuse. C'est ça qui me frappait.
Vous faisiez partie des millions de téléspectateurs qui regardaient Apostrophe le vendredi soir, Éric-Emmanuel Schmitt.
Bien sûr, c'était la messe culturelle qui était suivie d'ailleurs par toute la famille, les gens qui lisaient comme les gens qui ne lisaient pas, parce que c'était un vrai show. Et il a fait lire des millions de livres. Il avait un pouvoir absolument incroyable de prescripteur. Et d'ailleurs, moi, au début de ma carrière, j'en ai beaucoup profité parce qu'il adorait ce que je faisais. Et c'était extraordinaire, le pouvoir qu'il avait de changer la vie des gens. C'est ce qu'il a continué à faire après au Goncourt. Ce qui lui plaisait, c'était de pouvoir mettre la lumière sur des talents et changer la vie des créateurs.
Oui, vous nous le confirmez, quand il disait qu'un livre était bon et qu'il aimait un livre, ça avait de grosses conséquences pour l'auteur derrière, j'imagine.
Mais je me souviens que Vladimir Jankélévitch, le philosophe, il l'a invité lorsque Vladimir Jankélévitch avait à peu près 70 ans. Le lendemain du jour où il a fait Pivot, il a vendu plus de livres que pendant toute sa vie.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Éric-Emmanuel Schmitt. On vous libère. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps à nous consacrer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Jean-Michel Ry est également sur le plateau avec nous. Comment vous l'avez connu, vous, Bernard Pivot ? Racontez-nous.
Moi, j'étais sa dernière aventure, parce que je le connaissais un petit peu, puis il venait très souvent au Rond-Point. Et je sentais qu'il était amusé comme ça par la scène. Et un jour, je lui ai dit, mais... il faut que vous montiez sur scène, il faut que vous jouiez la comédie. Mais non, mais c'est pas possible, ça. Et finalement, il l'a fait avec des textes à lui, etc. Et ce qui a été miraculeux, c'est que son public énorme était là, il le voyait, et il n'a plus quitté ce désir. Il a fait des tournées, il est revenu, etc. Il est devenu, je dirais presque le comédien qu'il était toujours, avec des textes et avec un charme formidable. Un enfant aussi me demande des conseils, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que tu crois, j'avais pas grand chose à lui dire parce qu'il était absolument magique. Et c'était très touchant de voir cette espèce d'icône absolue, tout d'un coup revenir dans une humilité, avoir le trac, me demander si on entendait bien, si ses mots étaient bons, etc. Voilà. Et après, je dois dire, il m'avait demandé ce que j'ai fait sans doute très maladroitement, d'enregistrer un de ses livres, ce que j'ai fait.
Vous avez enregistré...
Oui, vous savez, pour je sais pas quoi, les audiolibres, etc. Voilà, et voilà, il était très touchant. On est devenu, comme ça, sur les 10 dernières années de sa vie, c'est devenu instantanément un ami, quoi. Comme ça, sans forcer, c'était naturel. Et il venait très souvent au Rond-Point, au point qu'il a investi au Rond-Point, il a eu un succès formidable.
Il avait toujours la malice au coin de l'œil, Bernard Pivot.
Ah, il était volontairement drôle, mais il ne le montrait pas. On dirait pas sans rire aujourd'hui, mais il avait toujours le mot pour rire, avec beaucoup, beaucoup de flemme et beaucoup de recul. Il avait ce pétillement. On dirait qu'il avait de la sagacité. Ça faisait partie des mots qu'il adorait, la sagacité. Voilà, c'était quelqu'un de sagace, voilà, et de loquace, bien entendu, aussi.
Il avait plus qu'au coin de l'œil, la drôlerie, parce que... Il était extrêmement drôle, il était extrêmement mutin, il était extrêmement comme ça, en même temps assez ironique.
Alors, je voulais qu'on écoute beaucoup de réactions, évidemment. Guillaume Durand était sur notre plateau. Aujourd'hui, il parle de cette émission culte apostrophe qui réunissait, je donnais le chiffre, entre 2,5 millions et 6 millions de téléspectateurs au milieu des années 80. Et il dit, voilà, il y avait ce truc très français chez Bernard Pivot, particulièrement français. On l'écoute.
Et ce côté français, ultra français, qui n'existe nulle part ailleurs, lié. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans aucun autre pays du monde une émission comme celle de Pivot, qui était une sorte d'autoportrait. Il y avait une chaise pour lui, des chaises pour les invités, une petite table, des livres et lui.
Il a raison, vous dites, Rosine Bachelot.
Oui, oui. Mais les Américains, quand ils viennent en France, ils sont stupéfaits de voir qu'on a des émissions. On a lui apostrophe, mais on a des émissions culturelles, des émissions de livres, ça les stupéfie littéralement qu'on fasse des beaucoup. Émissions de ce type-là.
C'est dommage parce qu'ils en auraient besoin.
Ils en auraient besoin, t'as raison. Ouais.
À cette nuance près que lorsqu'on vendait un livre sur apostrophe, c'était un best-seller, et qu'ensuite c'était chez Ruquier qu'on vendait des livres, le paradoxe non pas dans les émissions littéraires, et aujourd'hui il faut aller chez Hanouna. Vous voyez la régression culturelle de la France.
Il y a la grande librairie aussi, il y a d'autres.
Non, mais il y a des émissions littéraires, je parle de la vente. Aujourd'hui, après Pivot, c'était Ruquier, donc on n'est pas couché, et ensuite c'est Touche pas à mon poste si on veut faire un best-seller.
Non, mais c'est vrai, il faut...
C'est pas la même marchandise.
La place de la littérature, et même des intellectuels dans leur ensemble, a complètement dégringolé quand même dans le paysage audiovisuel. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Après, il y avait une émission plus récente que j'aimais bien qui s'appelait Ce soir ou jamais, par exemple, sur France 3, qui était d'abord quotidienne, qui ensuite a été passée hebdomadaire, et qui ensuite a été supprimée purement et simplement.
De Fréhitalie, tu veux dire?
Oui.
Oui, grand lecteur.
Et qui était une bonne émission, où il y avait des intellectuels, des universitaires qui dialoguaient avec des écrivains, qui dialoguaient avec des artistes, avec des hommes politiques. Quand même, tout ça, c'est beaucoup réduit, je trouve.
Mais c'est chaque époque a ses, voilà, ses nouveaux repères, etc. Repères. Mais mais franchement, la Grande Librairie, tu peux pas dire que la Grande Librairie, c'est une grande émission sur une chaîne publique à 21h.
Je ne juge pas la qualité d'émission.
Non, je
parle de l'impact d'une émission sur la vente des livres.
La Grande Librairie, comme apostrophe, il n'y aura plus jamais rien comme apostrophe. Parce que c'était une époque où le livre était plus important qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec la Grande Librairie de Gaston Trabenard, c'est à 21h sur une chaîne publique.
Excusez-moi, mais ces expressions, c'était une époque, c'était une autre époque. Je trouve ça incroyable. Oui, il y a des époques, mais les gens sont les mêmes hier qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'époque change, mais les gens restent. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui les gens seraient moins attirés par le livre.
Mais d'ailleurs, c'était une époque où il n'y avait pas le même nombre de chaînes de télé.
Et les gens continuent de lire. Hein. Oui, regardez Dany Prigoncourt de Andréa, Veillez sur elle. Il a été vendu à plus de 700 000 exemplaires.
Et celui de l'Hôtelier a fait 1,7 million exemplaires.
Donc en fait, c'est énormément. Les gens continuent à lire. Moi, je veux dire, moi, ce que je vois le plus, Guillaume Durand disait, c'est très français, mais peut-être que ce qu'il y a de plus français dans ce que proposait Bernard Pivot, c'était la liberté. Il y avait une espèce de licence, de possibilité, en fait, qu'il y ait un événement sur le plateau quasiment à chaque fois, qui était très, très, très fort. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu. C'est-à-dire que tout à l'heure, Perico parlait des émissions, notamment de Cyril Hanouna. En vérité, ce qui se passe chez Cyril Hanouna est toujours très attendu. Et à la télévision, d'ailleurs, et peut-être globalement dans notre vie, tout est souvent plus attendu que ce qui se pouvait se passer chez Pivot, peut-être du fait de l'alcool, peut-être du fait de la cigarette sur le plateau, peut-être du fait d'énormément de choses, mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce de licence permanente où en fait il était sur une espèce de corde raide. Oui, et d'ailleurs, ses invités aussi.
Il y avait moins de censeurs et moins d'offensés aussi.
Et surtout, les livres, il y avait plus de diversité et de liberté, même dans la pensée.
Mais bien sûr.
C'est ça aussi qui a changé, parce que pardon, mais quand je lis.
Les vieilles barres sur le plateau.
La littérature actuelle, qu'on regarde les films d'aujourd'hui, qu'on
attention
regarde
ce qui se fait
dans les institutions, culturelles.
Non mais
aujourd'hui, excusez-moi, tout le monde parle de la même chose.
Mais je vais t'emmener au théâtre.
Excusez-moi.
Arrête d'aller voir Michel Rive.
Mais je regarde ce qui sort, moi. C'est que des trucs, c'est sur les woke.
Mais non.
Allez. Oh, le rabat-joie sur le plateau, là.
L'œuvre est faite par celui qui a regardé les
LGBT, etc.
Jean-Michel Ribes.
Non, je veux dire. Non, attendez, non, je suis obligé de vous.
Tokyo vient de démissionner pour cette raison-là, parce qu'elle a dit j'en ai ras-le-bol de la programmation du Palais de Tokyo qui est en train de
faire face à cette officine
idéologique.
Non, mais non, mais. Non, non, mais ça, c'est pas. C'est pas du tout une je sais pas, ça veut rien dire là, pardonnez-moi, c'est pas parce que quelqu'un démissionne que c'est mal, etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Bernard Pivot était un intervieweur à hauteur des écrivains qui l'interviewaient. C'était toujours très intelligent, très fin, et on ne peut pas ne pas être intelligent quand on a quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi malin, d'aussi ouvert, d'aussi drôle, d'aussi insolent, d'aussi, comment dirais-je, d'aussi tendre. Et tout ce qu'il a fait, ses interviews, qu'est-ce que vous direz à Dieu quand il arrive, etc., ça a quand même remis les gens à la fois. Ils sortaient des choses d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais sorties, et ils apparaissaient moins crétins que d'habitude, et ils avaient surtout cette qualité formidable que tout d'un coup, en effet, ils se sentaient libérés. Ils n'étaient plus dans un talk show totalement contraint. Et puis surtout, il avait une chose, Pivot, c'est qu'il ne raisonnait pas, il pensait, parce que le raisonnement, ça tue beaucoup la pensée. Pensez-y, monsieur. Et je crois que la pensée...
Moi, j'essaye.
Et la pensée est quelque chose qui ouvre tout. Et moi, je suis désolé, mais je peux vous dire, et vous avez raison, qu'il y a énormément de gens qui lisent. J'ai dirigé un théâtre pendant 22 ans, qu'avec des auteurs contemporains et vivants, plein, tout le temps. Oui. Les gens sont curieux, les gens sont assoiffés de sensations, de drôleries, d'inventions. Il faut arrêter, c'est ça, le wokisme.
Et alors, il n'interviewait pas que des auteurs. Il a aussi reçu le boxeur Mohamed Ali. Il a reçu le dissident soviétique Solzhenitsyn. On écoute Anne Sinclair là-dessus.
Ouais, c'est comme un auteur, Solzhenitsyn.
C'est vrai, aussi.
Au passage.
Et surtout... Oui. Un grand homme de culture et de télé, en effet, que je voudrais rendre hommage. Il a fait en sorte que la lecture passe à la télévision à une heure relativement de grande écoute, avec surtout une attention extraordinaire. Il avait... Écoutez, j'ai un souvenir d'une émission avec Solzhenitsyn pendant 2 heures de dialogue avec la traduction simultanée, parce que Solzhenitsyn ne parlait pas français, et Pivot savait rendre cela magnifique et vivant. C'est à la fois... C'est une émission comme il n'en existe plus, voilà. C'était un tête-à-tête successif, même s'il y avait 5 personnes autour de la table, sur l'écriture, la littérature, la culture. Il savait rendre tout ça vivant et vrai et accessible. C'était un type formidable.
Voilà, il savait rendre la culture élitiste accessible à tous.
Je vais utiliser une grande phrase. Il était une certaine idée de la France, peut-être une France qui a changé. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus. Il avait ce symbole gaulien d'aimer toute la France dans sa globalité, dans tous ses paramètres, le culturel, l'artistique, l'intellectuel, le sensoriel, bien entendu, le gustatif, les saveurs. Pour lui, tout ça, c'était un tout. Et les émotions qu'on avait autour d'une table étaient pour lui un paramètre fondamentalement culturel. Il parlait du vin et de la table en termes culturels, et il y a une littérature du vin, et il y a dans les mots du vin et de la façon dont on parle de ce patrimoine viticole, c'est pas Roselyne qui me démentira, et que nos traditions culinaires et notre patrimoine agricole et des paysages de la France, le goût des paysages, il a inventé un langage, un échange et une façon de s'exprimer et d'aimer tous les bienfaits, tous les trésors de la France, que ce soit dans le sol, dans l'air, dans la culture, dans la mémoire, dans le passé. Il était quelqu'un de global et d'homogène, c'était un universaliste, c'était un grand Français. Il va nous manquer, il y en aura peut-être d'autres, ça ne sera pas les mêmes. Enfin, pour moi, c'est une page qui se tourne. Moi, j'ai connu, ouvrez les guillemets, j'ai connu Bouillon de Culture aussi. J'ai grandi avec lui, c'était un sanctuaire, c'était un instant, j'allais dire, académique. Quand il passait à la télé, tout le monde se taisait. Et on peut dire qu'il faisait un peu, il faisait l'actualité. Et aller chez Pivot, c'était la consécration à la littérature bien sûr étrangère, mais la littérature française était d'un niveau tel qu'il pouvait donner à son émission un statut, va dire, de grande émission culturelle. C'était l'intelligence, c'était la culture, c'était l'excellence française. Je vous dis, il va nous manquer, mais faut pas désespérer, on en aura d'autres.
Il a légué ses 700 livres sur le vin à sa bibliothèque, la bibliothèque publique de son village de Quincy.
Il aimait la langue.
700 livres sur le vin, quand même.
Oui, parce qu'il aimait la langue française et il aimait dans les mots du vin la façon d'aimer la France. Voilà. Il avait un vocabulaire, il avait un lexique qui était extraordinaire.
Il y avait une brave de comptoir qui faisait très beaucoup rire. C'était le Beaujolais est tellement arrivé que c'est ma femme qui est partie.
Il avait... Oh, c'est magnifique.
Oui, et puis je trouve que c'était quelqu'un aussi. Enfin, moi, dans je ne connais pas les versions, mais je pense qu'il a réussi cette chose, c'est que sa disparition le rend encore plus présent. C'est-à-dire que le manque fait que on va peut-être retrouver certaines qualités qu'il avait et peut-être s'apercevoir, et les chaînes de télévision, j'en suis sûr, s'apercevront que, il faut arrêter de cette frilosité qui est la moindre transgression est refusée. Et je pense que, c'était un transgresseur doux, mais un transgresseur.
Il détestait les conservateurs. On avait des engueulades parce que moi, je lui disais que tout était mieux avant. Il me dit, mais quelle horreur, au contraire, il faut regarder devant. Et c'est vrai qu'il a fini sa vie dans votre pour continuer ce que vous dites, Jean-Michel, sur les planches.
Oui.
Et il m'a dit une phrase terrible parce que c'était un spectacle éprouvant. Il le faisait avec assiduité. Il avait un certain âge, déjà 80, 83 ans. Et il me dit, je crois que ça va me tuer. Et effectivement, je ne dis pas que son accident de santé est là, mais il s'est tellement donné. Et il m'a dit, je ne savais pas que c'était aussi prenant, qu'il y avait autant d'énergie et autant de souffrance.
Ça l'a tué, mais ça l'a fait vivre formidablement.
Ah oui, parce qu'il
adorait ça.
Se donner à des millions de téléspectateurs derrière l'écran, c'était quelque chose. Mais là, aller sur une planche et avoir tous les jours un public qui vous écoutait, c'était autre chose. Il aura vécu une vie complète et totale au service de la France.
Oui, il y a une phrase que j'adore, c'est « On m'appellera au téléphone pour avoir une réaction à ma propre mort.
» Chaque fois qu'il y a un auteur qui
on
m'appellera aussi le jour de ma mort.
Emmanuel Macron.
On l'appelle et il est là.
Emmanuel Macron a réagi sur Twitter. Voilà ce qu'il dit. Il estime qu'il restera ce passeur populaire et exigeant.
Apprendre à écrire.
Est-ce que c'est bien ça? Oui, apprendre à écrire avec
cette
dictée.
Il y a des lunettes éventuellement.
À découvrir, peut-être qu'il faut des lunettes. À découvrir livre et auteur avec apostrophe, à vivre avec l'esprit français de conversation, de curiosité, de gourmandise. Bernard Pivot restera ce passeur populaire exigeant, cher au cœur des Français, mais pensé à ses proches. Et on voulait vous montrer les unes. Je crois que c'est les unes du Parisien, si je ne dis pas de bêtises, notamment. Et Libération, est-ce qu'on peut les voir? C'est deux unes.
Festival de
Genoux. Elles arrivent. Voilà, les unes de ce mardi, mais voilà. Alors, Bernard Pivot, épilogue. Voilà. Très belle photo de Bernard Pivot en noir et blanc et celle du Parisien, l'homme qui nous a fait aimer les livres.
Quel pays, la mort d'un journaliste qui parlait de littérature mériterait autant d'importance et la une de deux grands journaux.
Je pense que on a
l'exception culturelle française.
Vous avez une vision de la France qui est peut-être pas forcément.
Mais ça c'est une réalité.
Heureusement, il y a quand même d'autres pays où la culture est aussi mise à l'heure autant que chez nous. Enfin, toujours dire cocorico, c'est meilleur, c'est mieux chez nous que chez les autres.
Exception culturelle française.
Non, mais nous n'avons pas une culture meilleure que les autres. Nous avons une culture unique qui ne ressemble à aucune autre. Il faut préserver cette unicité.
Oui, mais comme les autres, comme les Espagnols, comme les Allemands, comme les Américains, comme les Chinois, comme les Japonais, comme
Bernard Pivot d'ailleurs, qui adorait Twitter.
Mais bien sûr.
Parce qu'il aimait bien ce jeu de concision,
5h46. Il a fait un livre sur les tweets.
Sur les tweets, sur les expressions qu'il avait. Cette nouvelle langue qu'il avait, avec quelquefois des choses qui le heurtaient, mais ça fait partie de la modernité. Voilà, c'est comme ça.
Et puis je crois qu'il avait tout ce qu'on a dit, on va pas essayer de faire des lieux communs, mais il avait cette chose rare, c'est qu'il avait, que c'était un homme qui était émouvant. C'est-à-dire qu'il y avait une émotion avec lui. Tout de suite en quelque chose qui passait en dehors de sa culture, en plus de sa culture, en plus de sa gentillesse, en plus de sa popularité, en plus de son amour du football et du Beaujolais, en plus de ça, il y avait une évidence. Il y avait un petit coup de foudre sentimental quand on le voyait. Et c'est ça, je crois aussi que ça passait beaucoup parce que il était aussi quelqu'un. On disait j'aurais adoré dire ça. Il a dit exactement ce que je voulais qu'il dise. Il avait ça. C'est-à-dire cette capacité d'avoir des ondes avec les gens, je sais pas comment, il les représentait et il était très, très, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup ému.
On ne pourra jamais dire, et on ne saura jamais, j'ai eu des conversations infinies, s'il était droite ou de gauche. Il y a des gens qui considéraient qu'il était plutôt conservateur, d'autres au contraire qu'il avait. Je crois qu'il était tout à la fois et qu'il avait une sensation, une sensibilité politique.
Un petit penchant à droite quand même.
Mais surtout, très paradoxalement. Oui, bon, il était conservateur.
Rosine a tranché.
Disons qu'il avait des valeurs. Il avait des valeurs personnelles qui n'étaient pas forcément.
C'est une
faibles.
Récupération que je ne suis pas d'accord.
On en profite parce qu'il
on
est mort.
Il ne saura jamais.
Il peut plus contredire, il ne peut plus démentir. Donc maintenant, on peut les faire dire ce qu'on
Bernard
veut.
Bernard Pivot, qui nous a donc quitté à l'âge de 89 ans. Merci beaucoup à tous. Merci à vous d'être venus sur notre plateau, Jean-Michel Ribes. À très bientôt, Perico Légas.
À très bientôt.
Voilà.
Je vous laisse avec la bande. Bon courage.
Pour une fois, on vous libère à 23h34. Profitez-en.